cette année-là, il venait de Pologne.
Entre les jeunes, bon, bah, ils ne pouvaient pas nous voir non plus, hein. C'est un peu là qu'ils nous appelaient, tout ça.
Mes parents, ils venaient du Nord, qu'on appelait les Camberlous.
Exactement. Mon pays, c'était Dentergem.
Il y a eu des Yougoslaves, des Serbes.
Surtout des Italiens.
Au début, je me suis ennuyée à mourir, madame.
Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
On marchait à genoux, on marchait à quatre pattes.
4 fois 5, 20, il fallait 20 mineurs.
Moi, je suis venue en 1930.
8000 ouvriers pour faire les minages de betteraves.
Travailler le nez. Le nez bientôt collé au sol.
Non, vraiment, quand je pense à tout ça, je dis, c'est pas possible que j'ai fait tout ça. C'est pas possible. J'ai 82 ans, madame. Ben, c'est pas possible de croire qu'on a travaillé comme ça.
Moi, j'ai été ici un des tout premiers à avoir une arracheuse décolleteuse.
Puis on disait toujours, on voudrait bien s'acheter une petite maison.
Dans la série d'émissions intitulée « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien, émission construite à partir des interviews de ceux et de celles qui ont participé à l'évolution de la culture betteravière, RVM examine aujourd'hui les contrats de travail saisonniers, la manière dont étaient réglés les conflits du travail et les rapports entre les ouvriers qui faisaient les campagnes de betteraves.
Depuis l'implantation de la culture de betterave à sucre dans notre région jusqu'au début des années 70, le volume de travail manuel indispensable à cette culture a nécessité le recours à une main-d'œuvre saisonnière française et étrangère. La durée des travaux proposés aux saisonniers a évolué. Un agriculteur de Nanteuil-le-Haudouin nous explique le cycle des embauches sur son exploitation.
Et puis, alors, vous aviez une partie des saisonniers qui venaient, je vous parle alors pour les Polonais, Italiens, Espagnols, Portugais, etc. C'est une partie venait pour les betteraves, la moisson, betteraves binage, la moisson et les arrachages. Et puis vous en aviez une partie, parce qu'on n'avait pas besoin totalement de ça, vous en aviez une partie qui ne venait que pour les binages, qui repartait après les binages, et certains revenaient pour les arrachages. Ici, dans mon exploitation, disons que la moitié de cette immigration repartait pour revenir au moment des arrachages, et puis l'autre moitié restait là pratiquement du 1er mai à fin novembre, fin décembre même, parce que les arrachages duraient très tard, comme ça se faisait à la main.
D'une façon générale, avant 1939, les embauches se faisaient pour 7 mois, y compris une partie des ouvriers polonais qui repartaient chez eux, pour 5 mois l'hiver. Après la Seconde Guerre mondiale, les Bretons avaient surtout des contrats de 3 mois, ainsi que les Belges, en raison des avantages financiers qui leur étaient accordés depuis 1946, pour l'exécution de travaux betteraviers. Un accord ayant été signé entre la France et la Belgique pour que les saisonniers belges reçoivent une rémunération identique ou proche de ce qu'ils auraient reçu s'ils avaient travaillé en Belgique. Ce complément, appelé bonification, sera financé de façon différente selon les années.
Les autres travailleurs étrangers avaient des contrats de 5 mois et surtout de 7 mois jusqu'en 1957. Date à laquelle l'arrachage et le chargement mécanique des betteraves se développent dans les exploitations et suppriment ce travail. Après cette date, les contrats de 7 mois seront plus rares et remplacés par des contrats de 5 et souvent 3 mois. Cette forme d'embauche saisonnière a une longue tradition en agriculture, mais il y a peu de productions pour lesquelles les durées d'embauche étaient si longues, ce qui était sans doute bénéfique pour les saisonniers et pour les employeurs, comme l'explique un prêtre du Mulsien.
Vous savez bien que si les patrons faisaient venir des Italiens ou des Espagnols, ça n'était pas dans un esprit humanitaire. C'est parce que ça leur apportait quelque chose de très précieux. Ils avaient là une main-d'œuvre dont ils faisaient pratiquement, vous savez, ce qu'ils voulaient. Hein. Ils les avaient sous la main. Il leur demandait d'arriver à telle date vous pouvez partir, on n'a plus besoin de vous. C'est bien ça. intéressant.
Un exemple confirme les avantages économiques procurés par cette flexibilité de l'emploi habituellement pratiquée dans l'agriculture et le bâtiment bien avant qu'elle nous soit familière aujourd'hui sous la forme des contrats à durée déterminée. À partir de 1932, les étrangers sont autorisés à partir 5 mois en congé et à revenir en France sans que l'employeur soit obligé de débourser les frais d'un nouveau contrat. Dès 1933, un exploitant du Valois applique cette mesure à 8 ouvriers polonais qui partent le 1er décembre et reviendront le 1er mai 1934. De ce fait, il économise 24 000 anciens francs sur les salaires qu'il aurait été obligé de verser si ces saisonniers étaient restés l'hiver, à une période où ils avaient moins de travail, somme dont il faut retrancher les frais de voyage payés par l'employeur.
Avant 1939, les employeurs s'adressaient directement à l'office départemental de la main-d'œuvre agricole pour obtenir les nouveaux saisonniers dont ils avaient besoin. Ils pouvaient demander l'introduction d'ouvriers qui étaient déjà venus chez eux ou dont les noms leur étaient suggérés par leurs salariés permanents, ce qui fut souvent le cas, malgré la lenteur de cette démarche qui demandait 4 mois d'attente.
Après la guerre 39-45, le recrutement des saisonniers, qui atteindra son apogée au début des années 60, se fera par le truchement de 2 organismes créés par les syndicats d'exploitants. Le service main-d'œuvre, créé par la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, dont l'antenne pour le Valois se situait à Senlis, et d'autre part, le syndicat des planteurs de betteraves de l'Oise, implanté à Compiègne. Les agriculteurs du sud de l'Oise feront plutôt appel à Senlis. Ces 2 organismes transmettront les demandes d'introduction au service officiel chargé de l'immigration, mais ils joueront aussi, en cas de conflit, le rôle de médiateur entre les saisonniers étrangers et les employeurs. Le directeur du syndicat des planteurs de betteraves, en poste de 1953 à 1984, évoque cette période.
On avait un peu, si vous voulez, une procuration de la part des pouvoirs publics pour suivre les... Parce que bon, les pouvoirs publics tout seuls devant 6 000 ouvriers ne pouvaient rien faire. C'est donc avant 1960, hein, c'est la tranche 55-65, si vous voulez, la fourchette, vous voyez. Après, ça s'est amenuisé, mais enfin, le gros est en 60, hein, par là. Et donc, ça nous obligeait, parce que, ben, bien sûr, sur une masse pareille, il y avait des conflits. Hein. Des conflits, vous savez, les gens sont les gens, de part et d'autre d'ailleurs, cultivateurs ou ouvriers. Hein, il y avait un contrat appliqué, on n'était pas d'accord sur le contrat, ou les betteraves étaient trop sales. C'était l'époque, justement, où on n'avait pas encore évolué vers la monogermie, bien sûr. Hein. Donc, le travail sur du terrain relativement propre ou du terrain sale, c'est pas le même. Et l'ouvrier n'avait pas le même gain sur le terrain sale, il n'y était pour rien. Donc on était obligé d'intervenir, et on avait donc... j'avais un interprète avec moi, je dirais à longueur d'année, je m'occupais spécialement de ça. Ça durait 3 mois, si vous voulez, au moment des binages. Pendant 3 mois, ça n'arrêtait pas. De 5h du matin à 10h du soir, je me souviens, on essayait d'arranger les choses. On avait un terrain d'entente, dire aux cultivateurs, bah, écoutez, il faut donner un supplément, parce que vous voyez, l'ouvrier n'en sort plus. Ou bien à vous, écoutez, vous exagérez, hein, vous pouvez très bien travailler.
D'autres conflits pouvaient intervenir sur le logement, puisque les employeurs étaient tenus par contrat de loger les saisonniers, ou sur la nourriture, fournie par les employeurs lorsque les saisonniers n'étaient pas accompagnés d'une femme qui assurait ce travail. Mais les conflits les plus fréquents étaient malgré tout sur le règlement du travail à la tâche, conflits qui débouchaient rarement sur une grève. D'ailleurs, celui ou celle qui ressent l'injustice se retrouve bien souvent seul, comme en témoigne une ouvrière agricole.
Moi aussi j'ai déclenché la grève quand j'allais dans les champs. J'étais une femme, j'étais toute seule, il y avait des bonhommes.
À quel propos vous avez déclenché la grève?
Ben parce qu'ils ne voulaient pas nous donner le prix.
C'était pour un travail à la tâche?
À tâche, oui.
Pour la moisson?
Non, on était au betterave.
Mais certains conflits ne trouvaient pas de solution avec l'aide du médiateur. Et là, le seul recours était l'inspecteur des lois sociales en agriculture, qui se souvient du découragement des saisonniers, vers 63, lors de l'introduction des graines monogermes, encore bien imparfaites, mais qui supprimaient déjà une partie de leur travail. Le prix des salaires, fixé en 1963, tenait compte de cette évolution en réduisant le prix du binage sur les semis en graines monogermes de 40%. Il se souvient aussi que ce qui était le plus durement ressenti par les saisonniers était la parole non tenue, et il cite le cas d'ouvriers espagnols de la région de Navarre qui rentrent chez eux après les binages et lui écrivent « Malgré le contrat, nous ne reviendrons pas pour arracher les betteraves chez X. Il avait fait un prix pour les binages et il n'a pas tenu parole. »
Lorsque les contrats étaient de 7 mois, certains saisonniers ne supportaient pas l'éloignement et la transplantation en terre inconnue, au point qu'il fallait parfois les rapatrier. Mais parfois, les médiateurs avaient aussi l'obligation pénible de rapatrier des morts.
Malheureusement, il y a eu des tués par les phénomènes. La foudre dans les champs, c'est arrivé assez souvent. Hein. C'est la foudre, oui, dans les champs. Il y a eu des cas, notamment chez Montel, la Crépy, des gens comme ça. Je me souviens de. Malheureusement, sur 6000, 7000 ouvriers, les éléments sont tels, ou un accident de voiture, ou tout ce qu'on veut, ou une bicyclette. Ou,
transport.
Oui, mais la foudre dans les champs, c'est arrivé plusieurs fois.
Au cours des interviews, nous avons souvent posé des questions sur la qualité des rapports de travail qui pouvaient exister entre des ouvriers d'origine géographique et de statuts si différents. Deux historiens nous rappellent qu'à la fin du 19e siècle, l'afflux massif de saisonniers belges donnera lieu à des conflits parfois violents.
Dès la fin du 19e siècle, on va faire appel à une population d'origine belge, donc une population qui vient d'au-delà des frontières. Alors avec des problèmes bien souvent de cohabitation très très importants, puisque ce sont des gens qui viennent effectivement pour gagner de l'argent, mais qui en même temps forment des groupes, et il y a souvent des frictions, des rixes, des problèmes, enfin, il ne faut pas non plus exagérer, mais quand on regarde la presse des années 1880-1900, on est frappé donc de voir qu'il y a souvent des bagarres, souvent des affaires qui passent devant la justice même, quelquefois, coups et blessures, etc., donc en mettant aux prises des Belges et puis des Français. Et puis, donc ça, c'est à peu près la situation donc, jusque 1914.
D'ailleurs, il faut dire que les agriculteurs, quand en 1919-1921, il s'agit de reconstituer les réseaux qui permettaient justement à ces travailleurs saisonniers de venir de Belgique, les agriculteurs font, on sent très bien, des pressions pour que l'on se dirige plutôt vers la Pologne que de recréer tous ces réseaux vers la Belgique. Alors, pour des raisons peut-être financières, sans aucun doute, mais aussi pour, cette forme, j'appellerais ça d'animosité.
Beaucoup plus tard, au début des années 50, une grande exploitation pouvait rassembler pour le travail des betteraves des émigrants polonais ou tchèques de la première génération, et déjà leurs enfants travaillant régulièrement à la journée, mais aussi des Belges, des Italiens et quelques Français. Si parfois la rapidité des uns donnait lieu à quelques jalousies de la part des autres, l'agressivité que nous venons de décrire ne semblait pas exister.
Oh, ça se passait bien.
Bien.
Parce que il y avait des jalousies quand même. Il y a d'autres qui allaient plus vite que d'autres, surtout les femmes dans les familles. À 9h, on avait casse-croûte et on se réunissait tous. Il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait tout ça. C'était le meilleur moment de la journée, casser la croûte ensemble. À 4 heures, on s'arrêtait aussi. Quand il faisait beau, on se couchait par terre, on mangeait notre casse-croûte. Et puis, ça, c'était bien.
Pass
passo per mare.
Rondinello che passo per mare.
Se mi vuoi ben d'amor mi fai volare.
Dans certaines fermes, lorsque l'attribution des parcelles arrachées donnait lieu à une nouvelle distribution, chaque équipe ne retrouvant pas forcément les parcelles sur lesquelles ils avaient démarié et biné, des tensions pouvaient exister.
Un arrachage. Vous avez des gens, je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait un supplément quand il y avait plus de 30 pieds ou décamètres. Alors il y en a qui tablaient là-dessus, qui laissaient de rue pour avoir une prime, vous voyez. Alors, ces parcelles, on les retrouvait à l'arrachage. Et à l'arrachage, il n'y avait pas de supplément. Alors, quand vous tombiez sur une parcelle où il y avait 35 pieds au décamètre, eh bien, le gars était pénalisé par rapport à celui qui avait 30 pieds, la parcelle qui avait 30 pieds au décamètre. Alors, il se trouvait que quand on savait qu'il y avait une parcelle qui était, que le gars avait 35 pieds de moyenne au démarrage, mais des fois on freinait pour éviter d'avoir cette parcelle. Vous voyez, c'est ça. Il y avait des problèmes des fois.
Des problèmes parce qu'un nombre supérieur de betteraves ralentissait le travail, donc le gain que l'on pouvait espérer. Mais malgré tout, les ouvriers stabilisés dans les fermes comprenaient très bien à quel point les saisonniers avaient besoin de travailler autant, donc vite.
Mais l'histoire avec un grand H interférait aussi en arrière-plan sur les rapports des ouvriers entre eux. Après la Seconde Guerre mondiale, les rapports avec les Italiens furent un peu difficiles, parce que les souvenirs de la période Mussolini étaient encore présents dans les mémoires et les premiers Espagnols réputés plus distants paraissaient, nous a-t-on dit, dans certains cas, peureux. Un ouvrier de Sennevières a compris un jour les causes de cette peur lorsqu'il a appris, étonné, que dans l'Espagne de la fin des années 50, on emprisonnait les gens pour une simple conversation au cours de laquelle on avait critiqué Franco. Par contre, tout le monde se souvient de la joie de vivre des Italiens qui chantaient pour rythmer leur travail et lorsqu'ils revenaient des champs en équipe.
Certaines équipes avaient aussi des principes de solidarité, comme cette équipe de Belges de McLean, vers 1944, sans doute rapide et efficace, parce qu'ils étaient tous jeunes et rompus au travail à la tâche, mais qui n'auraient pas abandonné une pièce sans que les autres aient terminé aussi leur parcelle.
Ici à McLean, il y avait aussi les journaliers de la ferme qui faisaient aussi les betteraves. Alors, il y avait, bon, il y avait le grand-père, il y avait Émile, il y avait Adrien, il y avait Lucien, ben, il y avait même Émile avec ses deux filles, il y avait encore ses deux filles en plus, il y avait sept. Oui, on était bien une dizaine à faire. Ben oui, il y avait 50 hectares, il y avait entre 40 et 50 hectares. Alors nous, on se basait toujours entre 5 et 5 hectares et demi de betteraves. Il nous fallait ça, hein, autrement on ne le faisait pas, on aurait refusé. Alors comme ça, bon, ben, il y avait des dames à ce moment-là, il y avait. Comment elle s'appelle, Adrienne, elle faisait 3 hectares, il y en avait qui en faisaient 4, mon grand-père il faisait aussi à peu près 5 hectares comme nous, parce qu'on avait comme habitude, on ne quittait jamais une pièce tout seul, un champ, qu'on finisse un champ. Eh bien, quand nous on avait fini, on finissait toujours la journée en aidant les autres. Ça c'était notre habitude. Et puis souvent, on commençait par les femmes qui étaient seules. Adrienne, hein, je disais encore l'autre jour, on finissait le carré avec eux, et souvent, on partait ensemble dans l'autre pièce.
C'était L'homme et la betterave à sucre, 100 ans de mémoire collective du Valois et du Mulsien. Aujourd'hui, les contrats de travail saisonniers pour les ouvriers agricoles. Réalisation RVM.
Vous venez d'entendre un épisode de la série radiophonique « L'homme et la betterave à sucre », 100 ans de mémoire collective du Valois, une série de 15 émissions produites par RVM en 1994 et 1995.